Bonsoir. La 10e édition de la conférence économique africaine a clôturé ses travaux hier mercredi à Kinshasa. Au cours de ses assises, les conférenciers ont relevé que la pauvreté et les inégalités sont très élevées en Afrique. Pour résoudre ce problème, les participants ont fait plusieurs recommandations, notamment promouvoir la production nationale en diversifiant ses produits et en développant l'agriculture, prioriser les infrastructures de base, renforcer les services publics de qualité et entreprendre des réformes foncières. Comment analyser ces recommandations? Nous en parlons avec Jean-Paul Boketsu, il est économiste national du PNUD en RDC. Il est parmi les participants à ces assises. Bonsoir Jean-Paul Boketsu.
Bonsoir Monsieur Guy.
Israël Moutala, journaliste, analyste économique et politique. Bonsoir Israël Moutala.
Bonsoir.
Et Michel Somoué, il est analyste économique. Bonsoir Michel Somoué.
Bonsoir.
Tous nos efforts pour avoir un membre du gouvernement dans cette émission n'ont pas abouti. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Fin hier, mercredi à Kinshasa, de la 10e édition de la conférence économique africaine. C'est par une déclaration dite de Kinshasa que les participants ont convenu qu'il y a un besoin urgent pour les pays d'accélérer les processus de transformation structurelle et les rendre plus équitables et inclusifs. Objectif visé, réduire la pauvreté et les inégalités dans le programme de développement pour l'après 2015 à travers les groupes sociaux. Le compte-rendu de Jeff Ngoy.
Les conférenciers relèvent que la pauvreté et les inégalités thèmes de la 10e édition de la CEIA sont très élevés en Afrique. Tributaires des produits de base, les Africains ne profitent pas de leur production. Ils déclarent que l'agenda 2030 exige des données fiables et audacieuses. D'où, ils recommandent à l'État de diversifier ses produits, de développer l'agriculture comme pilier de l'économie et du développement inclusif. Il faut également prioriser les infrastructures de base, renforcer les services publics de qualité, l'égalité des sexes et entreprendre des réformes foncières par la bonne gestion des problèmes de terre. Les ressources dont dispose l'Afrique doivent être efficacement utilisées pour le suivi des objectifs du développement durable. Si on ne peut pas éradiquer la pauvreté dans 5 ans, on ne ferait que prolonger les souffrances des populations. Interpelle ainsi le président de la BAD qui en appelle à un véritable leadership.
Merci Jeff Ngoy, Jean-Paul Boketsu. Je rappelle que vous êtes économiste national du PNUD RDC. Vous êtes parmi les participants à ces assises. 10e édition de la conférence économique africaine. Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ces assises?
Merci beaucoup, Monsieur Guy. La conférence économique africaine n'est pas la première dans l'histoire. Elle s'organise chaque année. C'est une grande rencontre scientifique de toutes les grandes têtes pensantes au niveau de l'Afrique et de tous les acteurs, que ce soit les chercheurs, les politiciens, la société civile, le secteur privé. Elles se rencontrent annuellement pour discuter sur des grandes questions qui posent aussi le développement de l'Afrique.
Discuter sur les grandes questions sur le développement de l'Afrique, quelles sont ces grandes questions?
Vous savez, les grandes questions de développement de l'Afrique, ça change d'une année à l'autre. Mais la particularité de cette année, c'est que, comme vous le savez, il y a un mois, tous les pays, les gouvernements ont adopté ce qu'on appelle l'agenda de développement pour l'après 2015. C'est un agenda qui doit guider l'action de développement de tous les pays dans les 15 prochaines années, donc jusqu'à 2030. Et cet agenda remplace donc l'ancien agenda de développement qui était basé sur les objectifs de développement du millénaire, que tout le monde en connaît, les OMD. Et cet agenda qui a été adopté au mois de septembre à New York, dont la RDC, aussi notre pays, était présent et a souscrit à cela, exige donc d'être opérationnalisé. Et la conférence économique africaine qui s'est tenue du 2 au 4 ici à Kinshasa était une meilleure occasion pour que ces pays réfléchissent sur comment opérationnaliser cet agenda.
Vous annoncez que les pays ont adopté l'agenda de développement pour 2030, mais avant d'adopter cet agenda, est-ce qu'on a fait une évaluation sur l'échec des objectifs du millénaire pour le développement, les OMD?
Ok, je suis avec vous. Je voudrais juste corriger juste une chose, c'est que au niveau des pays et au niveau de la région et au niveau mondial, il y a des évaluations qui ont été faites sur la mise en œuvre des OMD, pas nécessairement l'échec. L'échec, là, vous voyez déjà une direction. Et ce qui a été, ce qui est sorti beaucoup plus, je peux parler ici particulièrement au niveau de l'Afrique et je vais voir aussi la RDC, c'est que il y a eu des progrès remarquables, mais ces progrès dans l'ensemble ont été insuffisants pour réduire la pauvreté et que par rapport aux cibles qui étaient assignées par cet agenda de réduire de moitié et aussi de réduire les inégalités. À titre d'exemple, au niveau de la RDC, la pauvreté, le pourcentage de la population qui vivait dans la pauvreté depuis 90 était de 80%, et l'objectif de réduire de moitié, on devrait aller vers 40%. Mais qu'est-ce qu'on remarque? En 2012, la pauvreté se situait à 63%, c'est-à-dire 63% d'individus qui étaient en dessous du seuil de la pauvreté. Là, ça montre qu'on a pu réduire de 16 points, c'est-à-dire de 16%, 16% par rapport à 80%, mais on n'a pas pu atteindre l'objectif de 40%, la cible de 40% qui était visée. Et donc, il fallait maintenant, par rapport à cette évaluation, bien sûr, en dehors de ça, cette évaluation a pu aider aussi à identifier les leçons, c'est-à-dire les États ont tiré des leçons qui vont leur permettre de capitaliser dans la mise en œuvre du nouvel agenda qu'on appelle l'agenda de développement post-2015.
Oui, les OMD n'ont pas abouti. Vous proposez les objectifs de développement durable, les ODD, à l'horizon 2030. Quelle différence vous établissez entre les OMD et les ODD à partir du moment où on sait que l'objectif ultime est le même, combattre la pauvreté?
Ok, merci beaucoup. C'est une question qui est généralement posée. Les OMD, c'était juste 8 objectifs. Mais ici, aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on remarque avec les objectifs de développement durable, c'est un programme un peu plus ambitieux qui va au-delà des OMD. C'est-à-dire, il se fonde sur les OMD, mais il est plus ambitieux et il va au-delà des OMD. C'est-à-dire, il retient les objectifs qui étaient au niveau des OMD et il ajoute encore d'autres objectifs qui vont au-delà des OMD. C'est pourquoi ce programme-là, qui est plus ambitieux, il ne comprend pas 8 objectifs comme c'était au niveau des OMD, mais il a 17 objectifs et il a surtout comme objectif ici, lui, c'est vraiment d'éradiquer la pauvreté, c'est-à-dire zéro pauvreté. Par contre, les OMD, par exemple, visaient de réduire de moitié la pauvreté. Donc, c'est ça la différence. Et ces programmes ambitieux visent donc à ne laisser personne derrière, donc zéro pauvreté dans le monde.
Dès lors que les OMD qui étaient beaucoup plus réduits n'ont pas abouti, vous pensez que les ODD qui sont beaucoup plus robustes vont réussir?
Oui, ça c'est le problème que tout le monde se pose. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, c'est un programme plus ambitieux que les OMD et plus complexe aussi que les OMD. Mais aussi, cette complexité ne doit pas être nécessairement vue dans le sens négatif. Il doit aussi être vu comme une opportunité. C'est-à-dire, de l'expérience que les OMD ont créée, même si les pays n'ont pas pu atteindre les objectifs fixés, il a essayé quand même de construire des capacités, de bâtir des capacités où les pays ont maintenant des moyens et des dispositifs capables d'adresser des objectifs plus complexes que celui des OMD.
Monsieur Brichou, lors de cette conférence, vous avez relevé, donc vous participants, vous avez relevé que la pauvreté et les inégalités sont très élevées en Afrique. Et on sait que ce constat n'est pas nouveau. Il y a même récemment le FMI qui a relevé un paradoxe. Il dit la RDC pays riche et à la population trop pauvre. Et on a toujours recommandé aux pays africains de mettre en place des véritables politiques de répartition de sa puissance, mais rien ne change. À votre avis, qu'est-ce qui fait que, en dépit de toutes ces recommandations, les choses ne changent pas? Les pays africains sont incapables de mettre en place de telles politiques?
Ce n'est pas que les pays africains sont incapables de mettre en place de telles politiques. Ce que je puis retenir dans le résumé qu'on nous a fait du communiqué qui est sorti de la conférence, ici, ce qui ressort et ce qui est très important et un apport important de la conférence, c'est la volonté des gouvernements maintenant de prendre les choses en main et de ne laisser personne derrière. Et cette volonté, et c'est ça ce qui a pu être sorti, dans le consensus qui est sorti de la conférence et surtout de la déclaration, c'est-à-dire c'est cet engagement des gouvernements de mettre en place des politiques qui sont plus réalistes, qui sont plus actives et avec des réformes qui produisent des effets et pas des discours.
Merci Israël Moutala, journaliste, analyste économique et politique. La RDC a accueilli la 10e édition de la conférence économique africaine au moment où les institutions telles que les FMI vantent la forte croissance de ces pays. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Mais bon, cela m'inspire le fait que on ne peut pas réduire de la pauvreté sans créer de la richesse. Donc, la pauvreté, pour la réduire, il faut absolument créer l'environnement de création de richesse qui fait en sorte que nous puissions davantage produire de la richesse afin de réduire la pauvreté. Et le FMI, justement, a jeté des lauriers au gouvernement parce que il a regardé les fondamentaux économiques qui sont notamment le cadre macroéconomique qui ont été stables. Parce que vous ne pouvez pas mener une politique de lutte contre le développement sans au préalable stabiliser le taux, le cadre macroéconomique. Par cadre macroéconomique, on entend justement la lutte contre l'hyperinflation, la stabilité du pouvoir d'achat, vous avez un taux de croissance positif, vous avez la réduction du chômage et vous avez la position extérieure de l'État. Donc, ces éléments sont fondamentaux pour justement créer la richesse. Et donc, sur le plan de la stabilité du cadre macroéconomique, la RDC s'est montrée particulièrement performante au cours de ces 10 dernières années, voire plus. Et donc, il faut se rappeler que nous avons eu une décennie totalement destructrice de richesse parce qu'on avait le cadre macroéconomique les plus instables et les plus déstructurés qui soient en Afrique et au monde. Et donc, depuis 1990 jusqu'à 2001, on a connu des taux de croissance négatifs, on a détruit de la richesse et cette hémorragie de destruction de richesse s'est estompée en 2002. Et depuis lors, nous avons un cadre macroéconomique assez robuste, qui a su résister aux chocs exogènes, deux chocs exogènes de nature internationale. En 2008 et actuellement, nous faisons face aussi à un autre choc exogène et nous résistons mieux que la plupart des pays de la sous-région, ce qui montre que les réformes entreprises depuis 2002, amplifiées par l'actuel gouvernement, sont des réformes profondes, sont des réformes structurelles. Ce ne sont pas des réformes qui reposent sur du sable. Voilà.
Oui, Israël Moutala, les OMD n'ont pas été atteints. Que répondez-vous à ceux qui pensent que les OMD n'ont pas été atteints, tout simplement parce que l'initiative n'a jamais émané de l'Afrique, que cette initiative n'a pas tenu compte des réalités africaines?
Le débat de l'origine d'une recette, ce sont des débats qui n'en valent pas la peine. Et la recette qu'on propose pour réduire la pauvreté, peu importe son origine, quand vous observez ces recettes qui sont proposées, il faut les critiquer par rapport à leur pertinence plutôt que par rapport à leur origine. Dans le cas d'espèce ici, il y a des formules, mais toutes ces formules qui visent justement à la réduction de la pauvreté s'adaptent à des contextes nationaux, s'adaptent à des contextes régionaux. Donc, toutes les notions, toutes les recettes qui visent à réduire la pauvreté ont, pour les personnes de l'Afrique, sont toujours capitalisées parce qu'il n'y a aucune recette qui corresponde textuellement à une situation qui corresponde à ce que vivent tous les pays. La structure économique de tous les pays n'est pas la même. Il y a des pays qui sont plus dans le secteur agricole, d'autres qui ont plus de, qui ont une économie plus basée sur le secteur, le secteur minier, d'autres encore qui sont sur le secteur pétrolier, d'autres dans le secteur des services. Donc, les structures économiques, d'autres sont à une étape au niveau primaire, d'autres au niveau secondaire, au niveau tertiaire. Donc, il y a plusieurs structures économiques qui font qu'on ne peut pas avoir la même recette. Mais au niveau des objectifs, au niveau de la volonté, de la détermination à terrasser la pauvreté, je pense qu'il y a un consensus. Au niveau des objectifs à atteindre, il y en a aussi un consensus. Au niveau de la stabilité, par exemple, du cadre macroéconomique, il y a un consensus. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut ne pas être pas d'accord sur la stabilité du cadre macroéconomique. Alors, mais on peut avoir des variantes par rapport par rapport à la qualité des investissements, par rapport aux réformes à conduire, parce que toutes les économies africaines ne font pas face au même problème. Et donc, moi, je pense que la question de l'origine de la recette est un faux débat, parce que d'ailleurs, dans la plupart des forums ou des institutions internationales, les pays africains y sont membres et participent à la formulation de ces politiques publiques internationales.
Oui, les OMD n'ont pas été atteints. Les États viennent d'adopter les ODD, Objectifs du Développement Durable, et qui sont beaucoup plus robustes. Et j'ai posé la même question à M. Jean-Paul Bokechou. Vous pensez que les ODD ont beaucoup plus de chances d'aboutir que les OMD?
Il y a quand même une prise de conscience internationale sur le drame de la pauvreté. Il faut rappeler ici que la pauvreté n'est pas invincible. La pauvreté n'est pas hors de portée. Ça veut dire que si on est suffisamment rigoureux en termes de dépenses publiques, en termes de planification, en termes d'amélioration du climat d'investissement, en termes de financement des infrastructures, en termes de projets sociaux, on peut arriver justement à faire en sorte qu'on réduise sensiblement la pauvreté. Donc atteindre l'objectif zéro pauvreté me paraît plus ou moins idéaliste, plus ou moins utopique, mais au moins la cible, plus la cible est élevée, plus cela va amener les gouvernants à davantage d'ardeur, à davantage d'ingéniosité pour trouver les solutions afin d'arracher leur population des griffes de la pauvreté. Donc moi je pense que avoir des objectifs aussi ambitieux, c'est une bonne chose, parce que ça va permettre à redoubler d'efforts dans la lutte contre la pauvreté, parce que la pauvreté, elle arrache sa dignité à l'être humain.
Michel Somoué, je rappelle que vous êtes analyste économique. Comment vous analysez la tenue de cette 10e conférence économique africaine ici à Kinshasa?
Merci Dieu. Il me semble que nous, les intellectuels africains, nous sommes trop conformistes. Conformistes parce que nous voulons trop nous aligner au monde, à ce que le monde dit, nous le suivons un peu de façon aveugle. On parle aujourd'hui, on a parlé des OMD, Objectifs du Millénaire pour le Développement, nous avons avalé ça parce que le monde entier devait en parler. Mais ça nous concerne. Ça nous concerne en premier lieu, et c'est les autres qui conçoivent des solutions pour nous, sans vivre exactement ce que nous vivons, sans savoir exactement ce que nous sommes et ce que nous éprouvons. Ils font des recettes et nous les imposent comme standard international, et nous n'avons qu'à répéter ces mots pour passer pour des experts.
Et donc vous donnez raison à ceux qui pensent que les OMD n'ont pas été atteints, et tout simplement parce que ça n'émane pas des États africains, des pays africains.
Bien sûr, les OMD sont un échec lamentable. Les objectifs du Millénaire pour le Développement disaient qu'on devait réduire la pauvreté d'au moins la moitié.
40%.
Non, la moitié à l'objectif 2015. À l'objectif 2015, on ne doit pas faire la guerre des statistiques. J'ai entendu M. Dupné d'à côté de moi dire que la pauvreté a été réduite au Congo. Aujourd'hui, l'indice de pauvreté est tombé à 63%. Je crois que d'autres statistiques situe cet indice au-delà de 70%, mais lui à 63%, je ne sais pas, on ne fait pas la guerre des statistiques, mais une chose est vraie, dites aux Congolais que la pauvreté a diminué et dites-moi combien vont vous croire dans ce que vous dites. Moi, j'ai l'impression que la situation s'aggrave. Elle s'aggrave d'autant que la Banque mondiale a publié dans son rapport de avril 2015, c'était le 8 avril 2015 que j'ai lu ce rapport, que le rapport a été publié sur Marébonne, et qui disait que le Congo démocratique avait la densité de pauvreté la plus élevée de la planète. Et je pense au mois de juillet, le Fonds monétaire international est venu répéter à peu près les mêmes mots, mais dans son vocabulaire qui était le sien. Et que, comme j'entends le journaliste qui vient de parler avant moi, qui vante la stabilité du cadre macroéconomique et la croissance positive, oui, Israël Moutala, vous avez dit, qui parle de la croissance positive depuis plus de 10 ans, mais cela devait se traduire inévitablement par une amélioration sensible, significative des conditions de vie. Parce que quand vous avez enregistré un taux de croissance positif pendant 12-13 ans consécutifs, cela doit avoir un impact social très significatif. On ne devrait pas continuer à parler de notre pays avec les meilleures réformes structurelles du monde, me semble-t-il, c'est ce que j'ai bien compris, et qu'on continue à en parler comme étant le pays qui héberge la densité de pauvreté la plus élevée du monde. Alors, à quoi auront servi toutes ces réformes? Moi, je voudrais dire une chose, c'est que les pays africains se trompent et continuent à se tromper sur le plan économique. La lutte contre la pauvreté, à mon avis, n'est pas la préoccupation de la science économique. Moi, je suis présenté comme économiste. Et là, je veux rejoindre ce qu'a dit M. Israël tout à l'heure. Le combat de l'économie, c'est le combat pour la création de la richesse. Parce que le livre qui invente l'économie politique, la science économique d'Adam Smith, a pour intitulé « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations ». On n'a pas besoin de faire une étude sur la pauvreté des nations.
Lorsque les politiques... Mais la création de la richesse, c'est pour, n'est-ce pas, combattre la pauvreté?
Il faut faire attention. Il y a le plus, il y a le moins. Si vous vous attelez trop sur le moins, vous allez oublier le plus. Lorsque les politiques économiques sont définies pour la création de la richesse, elles ont une autre façon de s'articuler, donc de se mettre en application. Lorsqu'elles sont définies pour combattre la pauvreté, ça devient une autre réalité aussi. On peut arriver à l'un ou à l'autre par un autre chemin, etc. Mais je crois que c'est ça la première erreur. La deuxième erreur que nous commettons, c'est que nous articulons un certain nombre de politiques économiques, disons-le, en oubliant une chose essentielle, c'est que comme pour la plupart des pays africains, nous ne sommes pas propriétaires de nos économies respectives. C'est un problème. Nos économies, le droit de propriété sur nos ressources économiques nous échappe. Et ça, c'est une réalité dans la plupart des pays africains. Nous sommes considérés, nous, les pays africains, comme étant des producteurs de matières premières, comme en fait des réservoirs de matières premières pour le monde entier. Et ce sont des pays occidentaux, ceux qui nous ont colonisés hier, qui continuent à exploiter nos principales ressources. Et comment peut-on éradiquer la pauvreté en ne tenant pas compte des ressources qui devraient être générées par l'activité productive intérieure, c'est-à-dire par le déploiement des artifices économiques qui créent la richesse? Comment on crée la richesse? On crée la richesse par l'activité productive. Et pourquoi la politique productive? C'est pour répondre à une demande locale, principalement.
Vous semblez être pessimiste. Donc, avec le diagnostic que vous venez de déposer, on peut dire que toutes les stratégies qui sont mises en place, les OMD, les ODD, sont vouées à l'échec.
Oui, je l'affirme. Si on voit l'échec, je suis pessimiste, je suis réaliste. Mais vous savez qu'il y a plus de 50 ans que nous sommes des pays... comme on dit, indépendant. Il y a plus de 50 ans que nous luttons pour parvenir au même résultat en train de lutter contre les mêmes maux. Donc c'est un problème qui devrait nous interpeller pour savoir que nous devons nous remettre en cause fondamentalement, et c'est ce que je suis en train de vouloir faire en vous disant qu'il y a des erreurs qu'il faut corriger, et au cours de cette émission, je reviendrai.
Merci M. Jean-Paul Bokichou. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu au sud Kivu.
Robert Wame de Bukavu au sud Kivu. En soi, ces recommandations sont bonnes. mais apparemment elle ne se démarque pas des recommandations issues des conférences économiques antérieures. Il y a alors lieu de se demander pourquoi organiser chaque année une conférence économique pour l'Afrique, lorsque dans les faits ces recommandations ne seront pas mises à contribution pour résoudre les sérieux problèmes socio-économiques de ce continent, tels que ceux liés à la pauvreté des populations, à l'emploi et à tant d'autres facteurs.
Monsieur Jean-Paul Bokechou.
Merci beaucoup, mon ami Robert de Sud-Kivu. J'ai salué aussi tout le monde de Sud-Kivu parce que j'avais travaillé aussi là comme économiste. Je suis d'avis avec toi quand tu dis pourquoi organiser une conférence chaque année. Ce que je dois te dire, c'est que ce que je peux dire, c'est que vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde de pensée. Et c'est la pensée, la réflexion, d'où naissent des options de politique et des voies et moyens de comment adresser des questions. Il est bien entendu, on peut voir qu'une année, c'est tout à fait petit, mais en termes de gestion de politique, une année, c'est beaucoup. C'est un temps relativement long. Je peux vous dire, même en une semaine, les changements qu'ils peuvent avoir en une semaine sont tout à fait différents. Et ici, la particularité, c'est que chaque année, la conférence adresse la réflexion sur des thématiques qui sont différentes et sur des sujets qui sont différents. Et ce que je soutiens, et je suis d'accord avec toi, comme tu l'as dit, ce sont des recommandations très pertinentes par rapport à un sujet qui est très pertinent. Parce qu'aujourd'hui, les objectifs de développement durable ont été adoptés et les pays se posent comment ils vont passer à l'opérationnalisation. Et il fallait cette conférence qui devrait réfléchir aussi de manière théorique que pratique pour adresser cette question et donner des outils aux pays pour s'engager directement. Laissez-moi vous rappeler par exemple parfois, les faibles performances qu'on a pu observer, enregistrées dans la mise en œuvre des OMD, sont venues du fait qu'il y a eu plus de temps que les pays ont pris dès l'adoption des OMD en 2000 jusqu'au début de l'opérationnalisation. Certains pays ont perdu 5 ans, d'autres 8 ans pour commencer l'opérationnalisation. Et vous savez, opérationnaliser quelque chose, c'est toujours une tâche très très difficile et c'est pas facile.
Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela, le retard que certains pays ont pris pour réaliser ces OMD, pour entamer, n'est-ce pas, la réalisation de ces OMD?
En fait, merci beaucoup, Guy. Il y a plusieurs raisons, mais là, j'évoquais par rapport à la question qui a été posée, c'est-à-dire le temps. Aussitôt qu'on adopte au niveau des États, il faut aller directement. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas se laisser attendre que je vais mettre demain. Pendant que toi, tu attends de mettre demain, certains États commencent déjà à mettre en œuvre. Et là, ça peut différencier aussi les résultats ou les progrès qu'on peut enregistrer. Tu sais, le progrès que tu aurais pu réaliser dans les 10 ans, si tu commences après 5 ans, tu risques de ne pas atteindre ce que tu aurais pu vouloir réaliser dans les 10 ans. Donc, la question aujourd'hui, c'est les gouvernements se sont engagés d'aller vite, et c'est ça la grande conclusion de la conférence, d'aller vite dans l'opérationnalisation. C'est-à-dire voir comment, dès aujourd'hui, depuis l'adoption, adresser déjà la question des OMD dans leurs plans nationaux de développement ou dans leurs dispositifs de planification.
Et que répondez-vous à Michel Somoy qui, à travers les diagnostics qu'il venait de poser, en fait, il veut dire que toutes ces stratégies ne vont pas aboutir?
Non, vous savez, je respecte bien son opinion, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire, il faut être ambitieux et il faut être optimiste. Le pessimisme, je ne dis pas que ça n'a pas de place. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, ça dépend de la situation initiale. Vous savez, si je veux prendre le cas de la RDC, il est bien que tous les pays n'ont pas les mêmes conditions ou la même situation. Mais si je veux prendre le cas de la RDC, si on compare en 2000, quand on adoptait les OMD au niveau de New York, par l'Assemblée générale des Nations unies, et en 2015, quand on adoptait les OMD, les ODD il y a un mois, je pense, nous tous aussi, chacun faisait cet exercice dans sa tête, il posait les deux situations dans son esprit, vous allez voir qu'aujourd'hui, la RDC se trouve dans une meilleure position, dans un meilleur moment que ce que ça prévalait en 2000. En 2000, par exemple, nous étions sous la période de la guerre, avec des groupes armés par-ci par-là, un pays partitionné, et les préoccupations étaient autres, et ce n'était pas adressé les OMD. Et aujourd'hui, on a tous les éléments, comme mon ami a pu le dire tout à l'heure, comme on nous a rappelé, on a un cadre macroéconomique qui est stable, on a des outils, des dispositifs de planification au niveau du pays, on a déjà à travers les 3DCRP, et aujourd'hui, on a une vision qui doit être matérialisé. Merci. Et je pense qu'avec tous ces éléments, on peut renforcer donc notre chance de réussite.
Israël Moutala, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kinshasa.
Particulièrement à Kinshasa. De toutes ces recommandations, il faut ajouter la mise en place de la classe moyenne. Cela exige la justice distributive de nos richesses, une bonne politique de sécurité sociale, la lutte contre la corruption, le blanchissement des capitaux, le détournement des deniers publics ainsi que l'exode rural. Cela n'est possible que lorsqu'il y a la volonté politique de la part de nos dirigeants. En plus de cela, il faut rendre les services agricoles et l'élevage obligatoires en inculquant aux Congolais cette culture dès le bas âge, en instaurant le cours de ces caractères dans notre système d'enseignement primaire, secondaire et universitaire, et en encourageant l'agriculture et l'élevage artisanaux.
Israël Moutala.
Plus ou moins d'accord avec notre auditeur, mais je ne suis pas d'accord avec l'imposition le fait de rendre l'agriculture ou l'élevage obligatoire pour tout Congolais. Non. Moi, je pense que l'initiative privée doit être encouragée. Les Congolais qui se sentent une vocation, une âme d'éleveur, d'agriculteur, peuvent se lancer dans ces secteurs-là. L'État, son rôle, doit se cantonner à créer les conditions de l'émergence de ces secteurs par des banques sectorielles, par un cadre légal qui soit suffisamment attrayant, une politique foncière lisible. Bref, voilà un peu les éléments que nous demandons à l'État de mettre à la disposition des citoyens pour qu'ils puissent justement investir le champ agricole ou celui de l'élevage. Mais d'une manière générale, j'aimerais dire que la réduction de la pauvreté, l'État n'a qu'un seul a un levier important, c'est le levier budgétaire. Ça veut dire que en créant de la richesse, quand un pays crée de la richesse, l'État prélève cette richesse au moyen de la fiscalité, et cet argent, une fois dans les caisses de l'État, est investi dans des projets sociaux et dans des projets d'infrastructure. Et on a vu que les interventions de l'État au cours de cette dernière décennie s'est accru sensiblement, parce que d'abord, on a créé de la richesse, et sur cette richesse, on a vu que même le taux de la pression fiscale, qui était de à peu près 4% en 2001, est aujourd'hui à 14%. Donc il y a un effort d'une mobilisation importante de ressources publiques, et ces ressources publiques sont plus ou moins utilisées avec une certaine efficience. Mais c'est vrai que, comme je ne suis pas aussi pessimiste que M. Sommouet, parce que je dis, c'est vrai qu'il y a une croissance qui est importante, mais c'est une croissance qui de combien, la base sur laquelle est basée la croissance, elle est faible. Ça veut dire que on produit par exemple une tomate, si vous avez 10% d'une tomate, ça ne sera pas aussi important que si votre base était de 1000 tomates et qu'il y avait 10% de 1000 tomates. Et donc, nous progressons. Et c'est sur cette progression qu'on dégage de masse de manœuvre budgétaire pour essayer de réduire la pauvreté. Et même quand ce n'est pas l'État directement qui crée cette richesse ou qui crée de nouvelles unités de production, même les privés. Imaginez, parce que notre intervenant tout à l'heure a parlé de la classe moyenne. Lorsque l'État libéralise, par exemple, le secteur des télécommunications, il y a aujourd'hui à Kinshasa plus ou moins 5 opérateurs sérieux de télécommunications. Ces opérateurs, ils ont investi beaucoup d'argent et cet investissement là-bas a profité aussi aux Congolais. Ça veut dire qu'ils ont embauché des Congolais. Les Congolais qui travaillent dans ces entreprises de télécommunications ont un revenu, ont un salaire. Et ce salaire là-bas leur permet de consommer. Il y a un socle à partir duquel on peut construire cette classe moyenne. Je parle aussi, par exemple, du secteur bancaire et financier qui a été assaini. Donc, il y a une vingtaine de banques à peu près. Ces gens là-bas, ils ont engagé des Congolais. Et ces Congolais ont un revenu qui est quand même relativement supérieur à la moyenne de ce que gagne le fonctionnaire de l'État.
Merci. Donc,
avec ce revenu, vous avez un socle d'une classe moyenne qui se crée petit à petit parce qu'ils consomment. Et en consommant, on pousse des jeunes Congolais à aller vers Dubaï, à aller vers la Chine, à rapporter des biens et des services qui sont consommés par ces Congolais qui ont un certain pouvoir d'achat. Et donc, même les entreprises qui ont été créées, et ces entreprises payent de l'impôt. Et cet impôt, justement, l'État se sert de cet impôt pour investir dans l'infrastructure. Et donc, je pense qu'il y a une base saine, il y a une base solide
sur
laquelle on peut entrevoir l'avenir avec plus ou moins de sérénité et d'optimisme. Mais il faut consolider, justement, ces acquis, il faut les amplifier. Et justement, c'est la tâche à laquelle doit justement répondre l'amélioration du climat d'affaires.
Merci.
Et avec une loi aussi importante comme la libéralisation qui va arriver du secteur de l'assurance. Donc, il y a un foyer, un faisceau de réformes qui postule que l'avenir peut être quand même assez moins menaçant.
Merci, Michel Somoué. Il y a une question qui vous est adressée. Elle vient une fois de plus de Bukavu, du site Kivu, donc.
Je réponds au nom de Robert Kabandagne à Bukavu, au site Kivu. Les solutions données pour résoudre le problème des pauvretés sont toutes bonnes. Mais une chose est certaine, ce sont les guerres qui appauvrissent les gens en Afrique au Sud-Sahara à cause de non-application des principes démocratiques par le gouvernement de ce pays. Il y a un grand fossé entre les riches et les pauvres.
Monsieur Michel Somoué,
je ne suis pas sûr d'avoir capté exactement sa question, mais je crois comprendre pour l'essentiel qu'il salue les mesures et il les trouve bonnes, mais il condamne, si j'ai bien compris, l'application de la démocratie, quelque chose comme ça.
Il dit les solutions données pour résoudre les problèmes de pauvreté sont toutes bonnes, mais une chose est certaine, ce sont les guerres qui appauvrissent les Africains au sud du Sahara par la non-application des principes démocratiques par les gouvernements de ces pays et les existence d'un grand fossé entre les riches et les pauvres.
C'est pas faux. Son analyse elle est pertinente, elle est compréhensible et il peut avoir raison. Mais ce sur quoi moi je voudrais insister, c'est que je ne suis pas, et dites ça à M. Moutala, je ne suis pas pessimiste, c'est plutôt lui qui est optimiste. Moi je suis réaliste. L'économie c'est l'offre et la demande. Si on veut créer la richesse qui soit partagée par tous, il faut qu'il y ait effectivement une offre et une demande à l'intérieur de la région considérée. C'est ça qu'on appelle le marché intérieur. À partir du moment où l'offre elle est inexistante, la demande elle est inexistante, on ne peut que partager la pauvreté. C'est ce qui arrive dans nos pays. Quand je dis que nous ne sommes pas propriétaires de nos économies ou de ce qui est supposé être nos économies, c'est un problème grave que les Africains sont en train d'esquiver lorsqu'ils participent à des conférences internationales où on leur dicte des concepts, des catégories qui viennent répéter avec des langages d'experts, de croissance, de stabilité. On ne comprend pas toujours ce dont on parle. Voici le premier piège qui bloque l'Afrique. C'est le piège monétaire. Parce que quand je dis que l'économie, c'est l'offre et la demande, entre les deux, il y a la monnaie. Ces pays qui sont développés là, et qui se disent être riches, c'est à mon avis des pays qui hébergent essentiellement des pauvres. Parce que, prenez les Américains, prenez les Belges, les Français, ils vivent tous à crédit. Ils ont tous des cartes de crédit. Ils vivent à crédit. Ils n'ont pas de revenus qui puissent faire d'eux, qui puissent garantir leur avenir. Ce sont des dettes qu'ils laissent jusqu'à leurs arrière-petits-fils.
En plus de ces pièges monétaires?
Non, je peux insister sur cette question-là parce qu'elle est très importante. Parce que lorsqu'on parle même de la stabilité du cadre macroéconomique, on se réfère à notre monnaie, disant notre monnaie est stable. Mais notre monnaie représente quelle part du marché dans ce pays, dans une économie qui est complètement dollarisée. Comment vous pouvez être responsable de votre économie avec une monnaie étrangère? Vous connaissez la masse de dollars qui circulent dans ce pays. Ça dépasse je peux dire, plus de 100 fois la masse monétaire déclarée par la Banque Centrale du Congo.
Donc il faut résoudre le problème de la monnaie, à part ça.
Il ne faut pas résoudre, ne passez pas vite sur cette question du problème de la monnaie, parce que c'est là le piège essentiel. Parce que c'est la monnaie nationale qui doit financer l'économie nationale. C'est la monnaie nationale qui doit faire, comme on dit, qui doit assumer non seulement les trois fonctions, c'est elle qui est le sang qui alimente l'économie et qui permet à une économie de vivre et d'exister. Lorsque votre économie fonctionne avec une monnaie étrangère, c'est-à-dire avec une politique monétaire étrangère, elle ne vous appartient pas. C'est pour ça qu'elle finance qui ? Elle finance les étrangers. Et c'est ça, c'est normal. Qui sont dans le secteur des télécommunications, devait parler M. Moutala, qui sont dans le secteur du cuivre, du cobalt, de l'or et du diamant ? Ce sont des étrangers. Et où vont ces recettes-là ? Au lieu d'alimenter la poche du citoyen congolais pour améliorer le pouvoir d'achat du Congolais et ainsi réduire effectivement la pauvreté, mais c'est les ressources générées par l'exploitation de nos richesses s'en vont totalement à l'extérieur.
Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement ?
Je parle de la politique monétaire. Je dis, il faut commencer, une économie doit commencer par avoir une monnaie nationale qui finance l'économie nationale. Voyez, prenez les pays africains, presque tous, les pays de la zone CFA ici, c'est l'euro qui est considéré leur monnaie. Autrefois, c'était le franc français. Mais comment ces pays peuvent prétendre au développement de leur économie ? De quelle économie ils parlent ? L'économie du cuivre, du cobalt, du Congo, Kinshasa ? Mais ça ne nous appartient pas. On importe même le cure-dent dans ce pays. Mais ça nous a, c'est pas notre économie, ça. Il faudrait une monnaie nationale capable de circuler à l'intérieur de notre nation, de financer notre économie et que nous devons savoir gérer. Lorsque nous aurons une monnaie nationale, que nous allons gérer nous-mêmes pour parler de stabilité monétaire, on ne parle pas de la stabilité monétaire avec une monnaie qui ne sert pas d'étalon des valeurs. Ça ne se fait nulle part. L'étalon des valeurs, c'est ce qui nous aide à calculer l'indice général des prix. Pour qu'on parle de la baisse de l'inflation, comme dit M. Moutala, il faut que le franc congolais devienne d'abord l'étalon des valeurs, la référence de prix de nos marchandises essentielles, qui sont des marchandises ancrées dans nos cultures, dans nos réalités, dans nos consommations quotidiennes.
Et en conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
C'est ça l'erreur. La conclusion, c'est qu'il faut que l'Afrique se réveille. Il faut que l'Afrique se réveille et qu'elle comprenne que elle doit créer dans chaque pays, il faut que chaque pays africain crée sa propre économie, véritable économie, avec ses variables à elle. La première variable économique, la première de toutes les variables, c'est d'abord la monnaie. Il faut que les pays africains apprennent à gérer leur monnaie nationale. C'est important. Se doter de monnaie nationale et savoir les gérer, au lieu de faire des monnaies nationales, des simples substituts, ou j'allais dire des monnaies d'appoint, ou des monnaies qui fonctionnent à la périphérie des économies nationales. Et ça, c'est, à mon avis, c'est complètement stupide et ridicule.
Merci, M. Jean-Paul Boketchou. Votre conclusion, il faut que l'Afrique crée sa propre économie.
Ça, c'est une autre question de débat. En conclusion, ce que je voudrais dire, ce qui est important, c'est que l'agenda de développement post-2015 qui définit les objectifs durables de développement durable a été adopté par les différents gouvernements lors du dernier sommet à New York. Et ce sont les gouvernements qui ont adopté. Et l'élaboration de cet agenda est partie des consultations au niveau de tous les gouvernements, et surtout en Afrique, où les pays,
donc
les
chefs d'État, n'a été imposé à
s'étaient engagés, définir la transformation structurelle comme une option de politique pour éradiquer la pauvreté. Et donc maintenant, après son adoption, c'est venu le moment de passer à l'action sans tarder. Chaque minute, chaque jour qui va passer, ce sont des progrès que nous allons aussi manquer. Et la conférence a pu donner des voies et moyens et indiquer comment on peut passer à la matérialisation de cet agenda. Et la RDC, j'espère qu'elle doit rapidement sauter sur l'occasion pour passer à la matérialisation, pour accroître ses chances de réduire, d'éradiquer la pauvreté et de réduire les inégalités à l'horizon 2030.
Merci. Israël Moutala, votre conclusion ?
Ma conclusion, j'aimerais dire à M. Somoué d'abord que le secteur minier a contribué pour le budget de 2013 à hauteur de 1,4 milliard de dollars. C'est-à-dire quand un investissement vient dans un pays, elle rémunère d'abord justement l'investissement, le travail, et l'État perçoit une portion de cette richesse qui a été créée. Donc il est faux de dire que toute la richesse appartient justement aux apporteurs de capitaux. Mais c'est pas que, de toute façon, ce sont les apporteurs de capitaux qui ont pris le risque, ce sont eux qui sont les plus fortement rémunérés. Mais avec les taxes, avec les salaires payés, okay, c'est une richesse qui reste au pays. Je voudrais aussi dire que pour l'inflation, pas besoin d'avoir le dollar ou d'avoir le franc congolais comme monnaie de référence.
Merci, Israël Moutala.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique, à toute l'équipe Dialogue en Congolais, qui l'écoutait, Berry Franklin Luchaka sous la supervision de Pelle La Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bonjour de programme sur Radio Capi.